Ça vous dirait d'être entrepreneur? Retrouvez-nous tous les mois dans cette chronique réalisée en partenariat avec Initiative Ariège. Sur Radio Galaxie, la radio du Sud Toulousain. Et un podcast sur radiogalaxie31.com.
Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Ça vous dirait d'être entrepreneur? Je suis avec Loïc Cresto, directeur général d'Initiative Ariège. Loïc, bonjour.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Comment ça va depuis la dernière fois?
Écoutez, ça va très bien Bruno, ravi de te retrouver à nouveau pour cette séquence qui est la numéro 4.
On va y revenir tout de suite, mais tu n'es pas venu seul aujourd'hui, nous avons des invités.
Oui, complètement. Donc, pour traduire un petit peu nos différentes avancées lors des émissions précédentes et pour... je dirais continuer dans la démarche de montage de projets d'entreprise. On a donc deux personnes qui illustrent un petit peu ce parcours avec à la fois un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège, M. Thibault Beynet, et nous avons également convié un chef d'entreprise qui avait été accompagné voilà un an et qui va pouvoir nous faire partager son expérience.
Thibault, bonjour.
Bonjour.
Et Miguel, le chef d'entreprise, bonjour.
Bonjour.
On va venir à vous tout de suite après. Donc, Loïc, rappelle-nous un petit peu ce qui a été vu dans les émissions précédentes.
Alors, on était parti au démarrage de, c'est-à-dire la genèse pour une personne, la genèse d'un projet, c'est-à-dire envisager des premières démarches pour vérifier que son idée, elle a donc une pertinence. Pour résumer, on avait encouragé toute personne à rencontrer d'abord son cercle amical et familial, notamment pour échanger sur l'offre envisagée, sur la clientèle visée, sur le nombre de concurrents, par exemple. En seconde émission, on avait orienté justement ces personnes vers des organismes professionnels, qu'ils soient publics ou privés, de manière à échanger sur justement l'objet de l'entreprise, d'avoir des premières appréciations, parfois des critiques, pour permettre de mieux affiner donc le projet et puis concourir à sa réussite en prenant connaissance des écueils habituels et puis des recommandations. Donc on avait parlé notamment des chambres consulaires, on avait parlé de communautés de communes, on avait parlé de banques, d'assurances. Enfin, il y a tout un écosystème qui permet à une personne de prendre des informations sur la justesse de son projet. On avait enchaîné sur l'émission numéro 3 où on avait voulu être très concret avec la définition là clairement du modèle économique pour un futur entrepreneur. C'est-à-dire que là, on passe dans une phase concrète de définir précisément ce qu'on souhaite proposer à la vente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite commercialiser, que ce soit des produits ou des services. On avait parlé de l'approche du prix, qui est forcément important par rapport à la proposition d'une offre. On avait parlé de la manière de communiquer autour de son entreprise et la manière aussi de distribuer, puisqu'il existe plusieurs options par rapport à ça, en fonction de son produit ou des services qu'on propose. Donc là, aujourd'hui, on arrive à la maturité, le projet avance, on a plus de certitude sur le modèle qu'on souhaite proposer. Et très souvent, les personnes ont besoin, dans le cadre de leur montage de projet, d'aller chercher des partenaires. Dans des partenaires, il y a aussi des partenaires financeurs, des banques, par exemple, et elles ont besoin de confiance, ces banques et autres partenaires financeurs. Et pour ça, on va aborder justement la recette qui vise à pouvoir optimiser cette démarche pour, à la fin, parvenir à son but, c'est-à-dire mobiliser des financements et vraiment pouvoir entrevoir très concrètement la réalisation de son souhait, c'est-à-dire s'installer. Donc on va s'entourer notamment des deux invités aujourd'hui pour reprendre les différentes étapes de cette préparation au contact de financeurs notamment.
Donc ce qui est intéressant dans ce que tu dis en fait, c'est que surtout il ne faut pas se lancer à l'aveugle, c'est un travail, le créateur d'entreprise, chef d'entreprise, c'est quelque chose qui se prépare, quelque chose qui nécessite un peu de travail en amont, pour pouvoir poser les bonnes solutions aux bonnes questions.
Ouais, c'était le fil rouge depuis le début, c'est entourez-vous. Vous avez une idée, c'est bien, vous souhaitez être autonome, et c'est absolument pas incompatible avec le fait, justement, de s'entourer de personnes qui ont des spécificités, donc que ce soit en termes de connaissances de secteurs d'activité précis, que ce soit en termes de, voilà, de fournisseurs, de clients, de politique de prix. Il y a toute une batterie aujourd'hui de compétences sur les territoires à travers les structures dont j'ai parlé tout à l'heure qui permettent vraiment de se faire une idée sur ce qu'on souhaite vraiment proposer, puis aussi d'écarter parfois certaines hypothèses qu'on juge trop dangereuses au début, pas assez certifiées. Donc ouais, entourez-vous, c'est vraiment le mot qu'on souhaiterait que chaque auditeur retienne, parce que ça permet de se prémunir contre les risques en fait de l'installation et de s'installer dans une sérénité.
Et puis surtout que ces autres personnes vers lesquelles on se retourne, ce sont des professionnels, des gens qui ont l'habitude de rencontrer des entrepreneurs, qui ont l'habitude de la vie des entreprises. Et c'est le cas par exemple de Thibaut Beynet, qui lui est conseiller d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège. Rebonjour Thibaut.
Rebonjour, oui c'est ça.
Les chambres de commerce et d'industrie, c'est quoi ?
C'est une très bonne question. La plupart des gens ne savent absolument pas ce que c'est. Et je vous rassure, je ne savais pas non plus ce que c'était avant d'y travailler. Donc, rien de grave. Alors, nous sommes des établissements publics administratifs. Bon, notre existence est précédée la création de la République telle qu'on la connaît, hein, puisque les premières chambres de commerce, c'est 1500. Donc, ça date un petit peu. Et donc, on est des établissements publics sous tutelle de l'État. Mais on a un fonctionnement hybride où on est administré par des chefs d'entreprise qui sont élus par leur pair. Donc tous les 5 ans, il y a des élections où on demande aux entreprises de voter pour des listes. Et du coup, on a des élus qui ensuite fixent les missions localement, fixent les spécificités territoriales qui s'inscrivent quand même dans un champ national puisqu'on est sous tutelle de l'État. Donc on a quand même un cadre commun.
Qui veut donc dire que les chambres de commerce sont liées à un territoire.
Tout à fait, les chambres de commerce sont des chambres qui sont locales, hein. On dit des chambres territoriales, hein, des CCI territoriales.
Et le territoire correspond à quoi ?
Au département, oui.
Un département, d'accord.
Oui, il y a des chambres de commerce dans tous les départements, et il y en a même dans quasiment tous les pays étrangers, en fait, parce qu'il y a un autre réseau des chambres de commerce à l'international. Donc il y en a aussi, mais bon, c'est un autre réseau.
C'est quoi la fonction d'une chambre de commerce, justement ?
Alors, on a beaucoup de missions. On en a un peu moins depuis qu'on nous a recentrés sur certaines de nos missions. Bon. Les principales, c'est quand même l'accompagnement des porteurs de projets, des entreprises du territoire, dans une volonté de pérenniser les activités économiques et de les développer sur notre territoire. Donc c'est la création, la reprise d'entreprises, le développement des entreprises, la transmission pour ceux qui veulent vendre leurs entreprises. On a aussi des missions d'appui au territoire, donc on appuie les communautés de communes, les mairies, quand elles ont des questionnements sur l'urbanisme commercial, sur des questions réglementaires liées au développement économique. On fait de la formation et plus globalement, on représente le monde économique auprès des pouvoirs publics. On fait remonter des informations. Bah, très concrètement, hein, quand il y a eu la crise Covid, l'État s'est fortement appuyé sur nous pour faire remonter des problématiques de terrain. Quand ils sortaient les aides, nous, on faisait remonter les difficultés qui pouvaient se présenter très concrètement pour les entrepreneurs vis-à-vis des aides. Donc, ça a permis de déjà qu'on réponde au téléphone, que les entrepreneurs, ils aient quelqu'un au téléphone pour savoir comment ça se passe, comment on fait pour demander le fonds de solidarité, etc. Et puis, au-delà de ça, pour faire remonter les difficultés du terrain pour affiner les dispositifs d'aide qui avaient été mis en place.
Vous êtes un organisme d'accompagnement ou un organisme de statistiques et de remontée d'informations ?
Alors, on ne fait pas trop de statistiques, mais on peut dire qu'on fait les deux.
Les gens qui travaillent à la Chambre de commerce, ce sont des entrepreneurs ou ce sont des techniciens de l'économie ou des juridiques ?
Il y a de tout. Je dirais que ça dépend aussi des CCI. Bah, pour ma part, j'ai eu un parcours de création d'entreprise, je ne me définirais pas comme entrepreneur, même si j'ai eu des entreprises. Après, il y a certains de mes collègues qui sont d'anciens chefs d'entreprise. Je dirais qu'il n'y a pas de règles, quoi.
Donc, c'est des gens qui connaissent vraiment bien l'entreprise.
Ah bah, c'est notre boulot, oui. Donc, c'est notre métier, oui.
Comment vous prenez connaissance d'un territoire ? C'est-à-dire que sur place, vous allez voir toutes les entreprises, vous attendez qu'on vous appelle
Alors, il fut un temps, mes anciens collègues qui sont partis à la retraite, en effet, allaient beaucoup sur le terrain et faisaient le tour de toutes les entreprises. Ça faisait partie de leur temps de travail. Malheureusement, on a subi des pertes sèches en termes de budget, hein, de fonctionnement. Donc, on n'est plus autant et on n'a plus autant de temps. Donc non, on ne va pas sur le terrain, on attend que les gens nous sollicitent.
Donc ça veut dire que c'est un appel à tous les entrepreneurs qui ont besoin d'une information spécifique de contacter enfin les entrepreneurs dans le secteur de l'industrie, donc parce qu'il existe d'autres chambres consulaires, on y viendra juste après.
Alors, pas que l'industrie, dans le commerce, service, industrie.
Donc, de prendre contact avec vous.
Tout à fait. Et spécifiquement ici en Ariège, on accompagne également les professions libérales parce que personne d'autre ne les accompagne.
Sachant très bien que les autres chambres consulaires sont la chambre des métiers.
Tout à fait. La chambre des métiers et la chambre d'agriculture. Alors, pour faire la différence, alors la chambre de métiers, c'est le pendant de la chambre de commerce et d'industrie pour toutes les activités artisanales. Pour savoir si vous relevez des métiers ou de la chambre de commerce, parfois, c'est un petit peu compliqué, donc appelez-nous et posez-nous la question. On organise des réunions d'information régulièrement. Et pour ce qui est de la chambre d'agriculture, bon là, c'est assez clair, c'est la maîtrise d'un cycle végétal, quoi, ou animal.
Loïc nous parlait tout à l'heure des quatre points qui étaient le prix, le produit, la commercialisation et la communication. Et avec ces quatre points-là, est-ce que au niveau de la chambre de commerce, vous avez un regard sur ces quatre points? Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire sur cette démarche?
Alors, sur le 4P, alors oui, évidemment, on a un regard dessus, puisque ça fait partie du parcours classique de création. Donc, on a une idée, on la valide personnellement, ce qu'on appelle l'adéquation personne-projet, c'est-à-dire, bon, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai la capacité financière, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai le réseau pour, parce qu'il y a certaines activités où il faut aussi du réseau. Une fois que j'ai validé ça, la deuxième étape, c'est je confronte mon idée au marché et donc je fais une étude de marché. Donc cette étude de marché consiste de manière très simple, parce que souvent ça fait peur aux gens, mais c'est très simple, d'étudier la demande et l'offre. La demande, c'est quoi? La demande, c'est mes clients. Et l'offre, c'est quoi? C'est mes concurrents. Et ça, en entonnoir, au niveau national, on dit macroéconomique, on regarde un peu les tendances sur le marché. Et ensuite, au niveau local, au niveau microéconomique, on regarde localement, est-ce que ça colle au niveau national ou est-ce que c'est complètement différent, voilà.
Où est-ce que je trouve ces chiffres?
On trouve, c'est pas forcément des chiffres. Alors, il y a des analyses qui peuvent être quantitatives, donc où on va rechercher des chiffres. Donc là, on peut aller sur les sites de l'INSEE. Vous pouvez venir nous voir également. Nous, on a tout un jeu de données qu'on peut vous procurer. Et ensuite, la magie des années 2000, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Internet, tout est à peu près accessible. Donc, vous avez tout un tas d'organismes qui font des statistiques. Alors, bon, l'INSEE, c'est le plus connu. Vous avez le Crédoc pour tout ce qui est les données de consommation. Et vous avez des organismes du type CTLM, enfin, des organismes dont on ne penserait pas qu'ils feraient de la statistique, mais qui récoltent des données. Donc, ça, c'est celles que vous pouvez trouver en libre accès. Et après, il y a des données que vous pouvez acheter auprès d'entreprises qui font des études de marché, dont c'est le travail, quoi.
Donc l'idée, c'est de savoir sur mon secteur si l'idée que je propose est intéressante pour une clientèle potentielle, c'est ça? Et pouvoir évaluer la quantité de le volume de cette clientèle.
Tout à fait.
Et en même temps, de voir quels sont les concurrents et l'offre concurrente.
Tout à fait. Comme ça, ça permet de fixer derrière son 4P, donc son mix marketing, donc quel produit je vais vendre, à quel prix, comment je communique dessus et par quel réseau de distribution je passe.
Sous quelle forme je dois présenter cette étude de marché?
Il n'y a pas de formalisme particulier. Moi, je conseille de présenter les conclusions de l'étude de marché, quitte à mettre l'étude de marché en annexe. Mais il n'y a pas besoin que ça fasse 10 pages. Hein. Si vous avez une page de données denses, analysées, structurées, qui démontrent par A plus B que votre projet il est viable parce que sur votre territoire, il y a tant de personnes qui pratiquent telle activité, donc telle activité sous-tend d'acheter tel type de produit. Tel type de produit, il n'y a pas de concurrent sur le territoire. Moi, je vais le vendre à tel prix, c'est le même prix que sur Internet, donc a priori, dans un magasin, ça pourrait peut-être marcher. Enfin, vous voyez, voilà, c'est de descendre de manière logique et de démontrer, en fait, à vos futurs financeurs que votre projet, il va être viable.
Et ça, je le fais donc avant l'étude des 4P.
C'est mieux. Ça permet de préciser, en fait, son 4P, oui. Ça permet de préciser son mix marketing, même si, généralement, évidemment, on a toujours une idée à peu près formalisée de ce qu'on va vendre, à quel prix, avant même de faire une étude de marché. Mais ça permet de le préciser, parfois. Mais ça permet, pendant l'étude de marché, on identifie que, la concurrence sur Internet, ils sont sur un positionnement entrée de gamme. Donc si je me lance sur Internet et qu'il n'y a pas de concurrence sur les autres gammes, peut-être pas me mettre sur de l'entrée de gamme, par exemple. voilà, partir sur du haut de gamme ou du milieu de gamme. Enfin voilà, ça permet de préciser le 4P et de fixer un positionnement par rapport aux concurrents.
Et les gens qui créent leur entreprise comme ça, ils apportent leur étude de marché, leur modèle d'activité, c'est-à-dire le business model, ce que disait Loïc la fois dernière, et à partir de là, on a quelque chose de solide pour pouvoir se présenter à vous ou à une banque ou encore d'autres éléments qui sont indispensables.
Alors nous, vous pouvez nous venir nous voir avant, parce que nous, on va vous aider à faire l'étude de marché. Et non, ça ne suffit pas, parce que la finalité de l'étude de marché, donc c'est préciser son mix marketing, mais c'est également de faire un prévisionnel. Si vous arrivez à la fin de votre étude de marché et que vous êtes incapable de dire que vous allez vendre tel produit à tel prix et que vous espérez en vendre tant par jour ou par mois, bah vous êtes un peu passé à côté de votre étude de marché, parce que votre étude de marché, elle vous permet aussi de faire des projections financières, donc ce qu'on appelle un prévisionnel économique et financier.
Et c'est là qu'on va rentrer en relation avec Miguel. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc vous, en fait, vous êtes entrepreneur, oui. Mais vous n'avez pas créé une entreprise, vous avez repris une activité, c'est ça?
Une activité qui avait déjà plus de 60 ans.
Ça fait combien de temps?
Aujourd'hui, ça fait un an et on va dire deux mois.
D'accord. Et vous avez été, vous connaissez donc Thibaut et Loïc?
Alors Thibaut, on s'est connus lors de la reprise de cette activité, parce que le cédant avec lequel j'ai repris l'activité avait déjà fait part à Thibaut de son projet de vente de boutique. Donc du coup, on s'est rencontrés, je l'ai appelé, j'ai eu pas mal d'échanges où il m'a aidé à finaliser aussi mon business plan et à mettre et aller voir les banques pour pouvoir monter le projet et la demande de crédit et autres subventions et tout autre. Et aussi j'ai rencontré après Loïc qui m'a aidé à finaliser certains projets et certaines demandes au niveau de l'Ariège et autres structures.
Et quelle a été votre demande exacte? C'est-à-dire que vous êtes retrouvé à reprendre une activité et vous aviez des questions précises à poser ou vous avez frappé la porte en disant voilà, je sais qu'il y a ça, comment vous pouvez m'aider?
Alors, ça a été un peu plus simple sur la demande parce que moi je ne connaissais pas la CCI ni Initiative Ariège. Donc on s'est rencontrés, il m'a expliqué exactement, clairement, ce qu'il faisait. Et de là, j'ai trouvé une solution, leur a mené ma demande et eux, ils m'ont aidé à monter le projet. Le projet, le bilan, de voir tout ce que j'avais comme structure à côté. Ils m'ont aidé aussi à me mettre en phase, par exemple. On a été suivi sur la reprise, sur tous les aspects financiers, à m'aider à faire mon bilan, regarder certaines choses que je n'avais pas vues. Et l'Ariège, je connaissais pas non plus. Donc, eux, ils m'ont amené tout un panel d'activités, tout ce que je pouvais avoir dans le circuit. Ils m'ont montré ce qu'ils pouvaient amener aussi, parce que la CCI et Initiative Ariège, comme je dis, c'est des gens que je connaissais pas du tout. Et après, ça m'a vraiment aidé dans des subventions et aussi des prêts que je pouvais avoir par rapport à eux, qui étaient beaucoup plus faciles qu'avec les banques.
Thibaut nous parlait tout à l'heure d'un prévisionnel. J'imagine qu'il vous a demandé de faire un prévisionnel sur votre activité.
Alors moi, comme j'avais déjà une autre activité, les prévisionnels, je l'ai fait avec un comptable, un expert comptable, auquel je lui ai donné plusieurs éléments et auquel on a sorti un prévisionnel qui a été vu et revu, que j'ai présenté à Thibaut, auquel lui, il a quand même amélioré certaines choses. C'est pour cela que j'ai pu aller voir les banques, pour pouvoir avoir une analyse et regarder ce qu'ils pouvaient me prêter comme somme pour pouvoir acheter cette entité, en fait.
En fait, c'est intéressant d'avoir dans son entourage un expert comptable ou un comptable qui soit capable de m'aider à poser ces chiffres sur le papier.
Oui, quand même. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux avoir un comptable pour pouvoir vraiment et faire une bonne étude pour pouvoir présenter et regarder tout ce qui peut se faire. Parce qu'il y a toujours, des choses qu'on ne voit pas assez qui font que... Il faut être accompagné, en fait. Il faut toujours être accompagné par... ou la CCI, Thibaut et Loïc m'ont vraiment accompagné avec mon comptable aussi là-dessus.
Et donc, entre le prévisionnel de départ et après un an de recul, c'est la même chose? C'est différent? C'est quoi?
Alors, le contexte, c'est pas vraiment la même chose, parce que bon, il y a toujours les choses qu'on voit en faisant, qui a été le cas, parce qu'il y a la conjoncture, il y a une évolution sur le marché. Moi, je suis dans le carburant, donc je joue avec le contexte actuel, avec beaucoup de changements, les variations de prix, tout ça, c'est pas évident à voir. Donc, il y a des prix qui se sont envolés, donc qu'il a fallu maîtriser, que cette chose, c'est pas même il y a il y a, on va dire, il y a 10 ans en arrière, ils n'avaient pas autant de fluctuations de prix. Donc tout ça, c'est des choses que je n'avais pas vues, que je n'ai pas vu venir. Donc il a fallu revoir un peu toute la donne et revoir un peu améliorer son prévisionnel, parce que le prévisionnel il suit tout le long de l'activité, quoi. Il faut toujours avoir 2 mois, regarder pendant 2 mois qu'est-ce qu'on va sortir pour pouvoir suivre un peu, pour pouvoir avoir une activité saine, quoi.
Le prévisionnel est fait sur combien d'années?
Sur un an.
Sur un an. Ce qui veut donc dire que sur l'année, on suit mois par mois, en fait, voir si on est correct par rapport à son prévisionnel.
Oui, on essaie de suivre une courbe et regarder si on est toujours dans la bonne courbe. Après, moi, c'est une activité que j'ai repris qui tournait déjà. Donc, il y a un barème que je suis et d'essayer d'améliorer bout à bout.
Thibaut, vous me faisiez signe, en fait, pour vous, un prévisionnel, c'est sur 3 ans.
Il y a une partie où j'ai vraiment fait sur un an, mais c'est vrai qu'on avait fait sur 3 ans. Mais la ligne que je suis, c'est... Je regarde déjà celle d'un an qui était liée déjà à l'activité que j'avais avec que le CEDA avait déjà, et après que je suis, quoi. Moi par mois, ils ont mon prévisionnel, ils regardent si j'ai la courbe qui est toujours la même sur mon prévisionnel que j'envoie à la CCI, enfin à Thibaut et à Loïc aussi.
Merci Miguel. 2 choses par rapport à ça, Thibaut, c'est que d'une part, le cas de Miguel est un peu particulier entre guillemets parce que c'était une reprise d'activité, donc il y avait déjà un existant en termes de comparaison.
Oui, c'est une reprise, donc c'est plus simple, surtout sur le prévisionnel, mais aussi pour le positionnement des financeurs. Hein, c'est beaucoup plus simple de se positionner sur une reprise d'activité où on a de l'existant. Et donc, comment on fait très concrètement pour faire un prévisionnel d'une entreprise qu'on reprend? On prend les derniers bilans, souvent les 3 derniers. Après, si on a les 10 derniers, on peut faire l'exercice sur 10 ans. Mais bon, ça devient un peu hasardeux. Les 3 dernières années, c'est déjà pas mal. Et on va faire des projections sur les années suivantes, en fait. Donc, on reprend les mêmes chiffres et on projette ça sur les 3 années suivantes avec toutes les améliorations qu'il peut y avoir. En l'occurrence, là, Miguel, quand il a repris l'activité, lui, quand on a travaillé le prévisionnel, il m'a dit il fait tant de pourcentage de marge sur ses produits. Moi, je sais que je vais faire tant. Ce n'était pas le même chiffre. Voilà, donc c'est des petits aménagements qu'on a fait, mais globalement, on a repris les chiffres du cédant.
Et vous regardez régulièrement, donc, comme disait Miguel, l'évolution de la courbe, si elle est cohérente, pas cohérente, s'il y a des anomalies?
Alors, ce qu'on suit, oui, c'est un élément, c'est le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on suit l'évolution du chiffre d'affaires mois par mois, puisque dans le cadre de l'accompagnement avec Initiative Ariège, il y a un tableau de suivi de trésorerie qui est envoyé aux gens qui ont été financés, qui sont tenus de remplir, pour justement qu'on suive si le niveau de chiffre d'affaires suit la courbe qu'on s'était donnée. Après, cet indicateur-là, il ne nous dit pas tout. Et il ne nous dit même... il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Donc, le chiffre d'affaires tout seul, ça ne suffit pas pour suivre une activité. Mais en effet, ça donne quand même une tendance. Si on avait prévu de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on est qu'à 10, on a un problème. Mais si ça se trouve, si on avait prévu de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on est à 200 000, on a peut-être un autre problème. C'est-à-dire, ça sera un problème de riche, mais ça peut générer d'autres problématiques de croître trop vite. Donc, ça permet de donner un ordre d'idée de est-ce que ça va ou est-ce qu'il a besoin que je lui passe un coup de fil, quoi.
Depuis tout à l'heure, on parle de prévisionnel. Mais alors, Thibaut, qu'est-ce qu'on met dans un prévisionnel?
Alors, dans un prévisionnel, on met des chiffres. Un prévisionnel, c'est composé de 3 éléments principaux, un plan de financement de démarrage, donc c'est un tableau dans lequel on va lister tout ce dont on a besoin pour démarrer son activité le premier jour, c'est-à-dire le matériel, le stock, les logiciels, les ordinateurs, les coûts qui sont induits par la création de la société. Si on crée une société, il faut rédiger des statuts, tout ça, ça a un coût. Est-ce qu'on a une caution de loyer? Enfin voilà. Tout ce qu'on a besoin de débourser au premier jour de la création de l'entreprise. Et en face, on va mettre comment on le finance. Alors, dans un apport, même s'il est minime, il faut un apport. Et ensuite, on va aller chercher d'autres financements. Et tout à l'heure, Miguel disait que j'avais un peu modifié le prévisionnel de son expert comptable. Oui, puisque son expert comptable, il habite Toulouse et il ne connaît pas les dispositifs d'aide ariégeois. Et donc, du coup, quand Miguel est venu me voir, bah, je lui ai dit, ah, bah, coup de bol, vous avez droit à une aide. Et c'est une subvention. Et c'est une subvention qui est relativement, cossue. Donc, on l'a rajouté au plan de financement. Ça a permis de baisser le niveau de banque qu'il fallait pour financer le projet. Voilà. Donc, le plan de financement, c'est tous mes besoins et en face, quelles sont mes ressources? Donc, mon apport, la banque, des subventions, un financement participatif, un prêt initiative Ariège pour venir conforter mon apport. Voilà. Et surtout, du coup, si on n'a pas beaucoup d'apports, bon, tous les partenaires ariégeois connaissent initiative Ariège, mais du coup, le prêt qui est donné par cette plateforme d'initiative locale permet d'augmenter le niveau d'apport et d'arriver à un seuil critique pour la banque, parce que la banque, bon, là, on va rentrer dans un peu de technique, mais la banque ne veut pas tout financer et la banque ne financera jamais 100% d'un projet. Donc, elle vous demande d'avoir généralement entre 10 et 30% d'apport en fonction des montants du projet, en fonction de ce que vous financez. Donc ça, c'est le premier élément, le plan de financement. Le deuxième élément, c'est le compte de résultat. Donc le compte de résultat, c'est sur 3 ans. Il y a plusieurs présentations, mais sur 3 ans, c'est en haut du tableau, vous mettez votre chiffre d'affaires, année 1, année 2, année 3, que vous déduisez de votre étude de marché. Donc le chiffre d'affaires, comment on le fixe? Bah, tout simplement, un nombre de clients multiplié par un prix de produit multiplié par un nombre de jours d'ouverture par an ou voilà. Donc ça, c'est mon chiffre d'affaires. Ensuite, mes achats. Donc si je suis dans le commerce, bah, mes achats, ils sont directement proportionnels à mon chiffre d'affaires. Et sur d'autres activités type artisanat, ça va être un petit peu différent, mais pas loin. Et ensuite, ce qu'on appelle les charges externes, donc les charges, mon loyer, mes déplacements, etc. Et tout en bas, vous avez le résultat de votre entreprise, donc ce que j'ai gagné finalement, ce qui me reste à la fin de l'année. Et entre-temps, je vous le souhaite, vous avez pris une rémunération. Donc ça, c'est le deuxième élément, le compte de résultat. Et le troisième élément, c'est le plan de trésorerie. C'est pour ça que Miguel tout à l'heure disait qu'il y a un plan de trésorerie que lui suivait sur l'année. Le plan de trésorerie, c'est sur 12 mois. Et c'est mois par mois, ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire... Vous visualisez un compte bancaire avec en haut tout ce qui rentre, en bas tout ce qui sort. Et à la fin de chaque mois, est-ce que je suis dans le rouge ou est-ce que je suis bon? Et c'est ce plan de trésorerie qui me permet de moduler le niveau de trésorerie dans le plan de financement initial, savoir si pour mes premiers mois d'activité, est-ce que j'ai besoin de 10 000 euros de liquidité ou est-ce qu'il m'en faut 100 000? Et en fonction de la progression de l'activité, bah, il va en falloir plus ou moins. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais, je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être que j'ai un problème. Mais en l'occurrence, si on avait prévu 100 000 et que vous en faites 200 000, bah, probablement que vous allez avoir un problème de trésorerie. Et donc, c'est sur ce plan de trésorerie qu'on gère le niveau de trésorerie initial qu'il faut pour ne jamais se retrouver en déficit.
Miguel, tout à l'heure, vous disiez aussi que vous étiez, pour ce plan de financement, en lien avec votre expert comptable, qui s'est mis en relation avec la Chambre de commerce, c'est ça?
Oui, il s'est mis, après le contact a été facile, il faut jouer carte sur table, que les choses soient claires, et puis je dis, il faut être en totale confiance. Donc, on s'est vu. Thibault a pris le relais avec mon comptable pour revoir un peu certaines situations qui sont notamment dans l'Ariège, avec les aides qu'on pouvait avoir et... L'Ariège, c'est pas pareil que Toulouse, avec les demandes ne sont pas les mêmes. Même les banques. Moi, j'avais prévu à la base de prendre une banque sur Toulouse, en discutant avec les connaissances que eux ils avaient. Je suis resté dans une banque de l'Ariège, quoi. Parce que c'est des contacts qu'ils avaient déjà. On s'est vu lors de café avec d'autres personnes qui travaillaient sur l'Ariège, quoi.
D'où l'importance de bien connaître son territoire.
C'est ça.
C'est ce que font les chambres de commerce et d'industrie.
Oui, ça c'est très important. Enfin bon, d'abord, enfin voilà, nous, c'est peut-être une spécificité ariégeoise, mais il y a un vrai travail de réseau. Hein, et du coup, c'est vrai qu'ici, tout le monde se connaît. Mais ça s'est passé à peu près de la même manière avec les experts comptables toulousains. C'est-à-dire que nous, on ne se substitue pas au privé, jamais. Donc... évidemment, il faut un expert comptable et il faut une banque et voilà. Et donc du coup, oui, nous, c'est notre rôle aussi de jouer la carte du réseau et de mettre en relation les uns avec les autres.
Miguel, par rapport à ça, est-ce que d'être suivi par une chambre consulaire, quelqu'un comme la Chambre de commerce et d'industrie, c'est une contrainte ou c'est une aide?
c'est une aide. C'est forcément une aide. C'est des gens sur qui je peux m'épauler quand je peux avoir un problème et à n'importe quel moment que je peux demander un conseil ou ils peuvent me retourner vers quelqu'un ou ils sont toujours présents, quoi. C'est une aide. Il faut être accompagné quand on crée une entreprise ou quand on reprend une entreprise. C'est bien qu'ils soient là, quoi.
Loïc, justement, par rapport à toute cette construction d'entreprise, toi, avec le recul que tu as au niveau de l'assistance et l'aide aux entrepreneurs, tu me disais une fois que la plus grande difficulté pour l'entrepreneur, c'est quand il se retrouvait seul et qu'il n'osait plus parler de ses problèmes. Lorsque je vois justement avec mon prévisionnel qu'il y a un delta important et que j'essaie de le corriger tout seul et que je ne suis pas aidé.
Tout ce travail en amont, il est pédagogique, hein. Il est surtout pour que l'entrepreneur il ait des repères. Il a entendu peut-être 10 fois, 20 fois les vigilances, donc il les connaît. Et la réaction après d'un entrepreneur, elle est aussi liée à son dynamisme. Il y a des chefs d'entreprise qui voient des signaux d'alerte et qui tout de suite vont les communiquer à l'expert comptable, au banquier, puis à la chambre consulaire qui est accompagnée. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont plus, je dirais, repliés. Nous, notre rôle aussi, c'est de tenter d'avoir un maximum de contacts dans l'après, hein, donc dans le suivi après création. Et il y a de la confiance qui existe, ça c'est important. Toutes ces démarches qui sont faites, et là donc l'illustration aujourd'hui avec Thibaut Benet de la Chambre de commerce et d'industrie et Miguel qui est chef d'entreprise, c'est voilà, d'encourager chaque porteur de projet à construire cet accompagnement parce que c'est un accompagnement qui est basé sur la confiance et qui permet aussi de pouvoir parfois aussi avoir un avis sur une décision à prendre. Il y a des décisions qui vont arriver qui ne sont pas prévues, mais qui, au bout d'un trimestre d'activité, se pose. Et c'est toujours bien d'avoir aussi un avis, sachant que c'est les chefs d'entreprise, on rassure tout le monde, qui appuiera sur le bouton. C'est l'entrepreneur qui fait les décisions finales. Mais entourez-vous, parce que ça donne plein d'options. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dont on vient de parler pour le cas de Miguel avec la station-service, c'est valable en fait dans tous les secteurs d'activité, que ce soit agricole, artisanal. Il y a toujours une chambre consulaire, on l'a dit, qui sera présente et qui proposera ses services. Donc on encourage tout le monde à frapper aux portes, à réaliser ces démarches. Alors ça peut paraître assez technique aujourd'hui quand on l'entend, mais quand vous êtes dedans, en fait, ça suit une logique et ça permet en fait d'avoir des repères. Et c'est très rassurant, je pense, pour tous les porteurs. Donc Miguel, quand il dit que c'était une aide, je pense que c'est parce que ça lui a permis d'avoir un avis supplémentaire. Et c'est dans tous les cas une option en plus et ça rassure. Et le chef d'entreprise a besoin d'être rassuré.
Le chef d'entreprise et ses partenaires.
Ses partenaires, puisque ben, y a eu pour certains, effectivement, des engagements. Alors, Initiative Ariège, nous, on a des engagements financiers, donc on a besoin d'avoir de l'assurance sur les activités en termes de pérennité. Et puis, ben, quand on fait ce métier, comme Thibaut, d'accompagner des gens, ben, on y met aussi du sien, et dans la mesure du possible, quand on observe un an après que l'entreprise est toujours là, que le chef d'entreprise est toujours dynamisé et à l'écoute, ben ça donne du sens à notre travail.
Thibaut, sur l'Ariège, l'entreprise, c'est quelque chose de florissant? Il y en a de plus en plus, il y en a de moins en moins, c'est quoi?
Je dirais qu'il y en a de plus en plus, mais florissant, on est un territoire rural, donc l'Ariège, c'est 150 000 habitants. Donc évidemment, il y a moins de création d'entreprises en Ariège qu'à Toulouse, hein.
Non, mais il y a de la place.
Il y a de la place, on est un territoire qui attire, donc... La tendance est plutôt à la hausse, oui.
Les entreprises qui se créent aujourd'hui sont dans quel domaine?
Beaucoup d'entreprises du tourisme. Je dirais plus sur le tourisme que sur le commerce. En tout cas, ça c'est certain. Après, il y a beaucoup plus de reprises maintenant aussi. Parce que Papy Boom, du coup, il y a des gens qui maintenant arrivent à l'âge de vendre leur entreprise. Et on a de plus en plus de gens qui rachètent des entreprises, oui.
Miguel, si on avait un conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer, ou peut-être aux moins jeunes, hein, qui voudraient se lancer dans une activité entrepreneuriale, ce serait quoi le conseil?
Ne pas lâcher prise, de toujours dessus son projet, et puis donc quand on a envie de monter un projet, d'y aller, quoi, d'y croire à ce qu'on fait, mais de ne pas partir tout seul, d'être toujours accompagné, d'avoir un appui, un soutien, parce que bon, des fois on peut se retrouver seul. Derrière, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a cet entourage qui peut nous donner un coup de main et dire « Mais non, il y a des choses que tu peux réaliser différemment ou voir certaines personnes. » Ou la CCI et l'Initiative Ariège, ce sont des entreprises qui accompagnent et qui voient d'autres entrepreneurs comme nous-mêmes. Donc ils ont toujours un repère pour pouvoir trouver une solution assez en adéquation avec nous, quoi.
Et pour terminer, toi, Loïc, quand tu vois des gens comme la CCI, quels sont les rapports que tu entretiens avec eux? Ce sont des partenaires, ce sont des prestataires? Comment tu les vois?
Bon, je vais prendre la première option, hein, qui est beaucoup plus adaptée. Des partenaires, c'est le mot que l'on emploie de toute façon quand on parle de ces entités aux porteurs de projets qu'on voit pour la première fois. Pour nous, ça permet à l'entrepreneur de revenir nous voir avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de confiance, j'y reviens. Il y a vraiment un effet de cette étude de faisabilité, de cette étude poussée, qui font que les gens ont beaucoup plus de certitude avant de s'installer. Et surtout, ils gagnent aussi la certitude de partenaires comme les banques. Et le plus grand danger, ça peut être de s'installer sans suffisamment de fonds. Certains tentent parfois ce pari de se lancer en disant « Allez, c'est pas grave, je m'exonère de cette démarche d'aller voir la banque et c'est pas forcément une bonne chose. Gardez votre épargne si vous en avez un petit peu. Allez confronter votre projet. Mais pour ça, il faut se préparer. » Et donc voilà, c'était un peu le sens, je crois, de cette émission avec quelques repères pour ça. Et on verra le détail dans les locaux. Donc venez nous rencontrer.
Messieurs, merci beaucoup. Merci de votre venue sur Radio Galaxy.
Merci à vous.
Merci.
Merci Bruno.
Et puis à une prochaine émission, Loïc, à très bientôt.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin.